Soft Power, Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot.
France Culture, 19h passé de 2 minutes, donc bien sûr, nous sommes en direct. Bienvenue dans Soft Power, magazine des industries créatives numériques, en direct jusqu'à 20h depuis le premier studio, 8e étage de la Maison de la Radio. Je commence cette émission ce soir en signalant la disparition cet après-midi de Nancy Reagan, l'épouse de Ronald Reagan. Elle avait été au début de sa carrière actrice à Hollywood, comme son mari, notamment en 1951 dans Night into Morning, où elle jouait une veuve de guerre, puis First Lady, bien sûr, de Californie, lorsque Ronald Reagan était gouverneur de cet état, et puis First Lady durant deux mandats à la Maison Blanche, durant les deux mandats de Ronald Reagan, figure très aimée des Américains. Nancy Reagan s'était notamment mobilisée au début des années 80 contre la toxicomanie et l'alcoolisme des jeunes à travers, par exemple, la campagne Just Say No. Nancy Reagan s'était donc mobilisée sur ces causes, sujet assez classique des First Lady américaines, d'être dans le social alors même que leurs maris sont présidents des États-Unis. Nancy Reagan avait 94 ans, c'était pour le moins une senior. Les seniors, sujet de cette émission ce soir. Aujourd'hui, 21% de la population française a plus de 60 ans, âge considéré par la sécurité sociale de manière officielle comme l'âge d'entrée dans la retraite. On peut bien sûr discuter de cet âge butoir. Est-ce qu'on est vieux à 60 ans? Certainement pas aujourd'hui. Mais dans tous les cas, ça fait beaucoup de monde et cela en fera davantage encore dans les années à venir. Au-delà de la démographie, il y a l'économie, donc des personnes âgées, et ce qu'on appelle désormais la silver economy, sujet de cette émission ce soir. Retraités, troisième ou quatrième âge, personnes âgées, les expressions varient, mais il est certain que le terme vieux est en train de disparaître. Personne n'aime se faire appeler vieux. Ainsi, on parle de carte vermeille et surtout de la silver génération. Le mot silver se répand désormais en devenant une sorte de synonyme pour personnes âgées. Silver est à la mode, on peut dire. Au-delà, il est vrai que la silver economy est une formidable source d'emploi, d'innovation technologique et sociale, d'invention de produits et de services nouveaux aux personnes. C'est notamment sur ces aspects numériques et culturels que nous allons nous concentrer ce soir, et notamment avec vous, Serge Guérin. Vous êtes sociologue, auteur de Silver Generation, 10 idées à combattre sur les seniors. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir.
Gérontotechnologie, système de surveillance et d'alerte pour les personnes âgées, robots d'accompagnement, donc comme notre robot qui nous a rejoint ce soir, qui est aussi à nos côtés. Il ne parle pas vraiment ce soir, mais il pourrait. Robots d'accompagnement donc, prêt spécialisé, jeux vidéo pour seniors. Nous parlons de tous ces sujets avec vous au cours de cette émission. Toujours dans Soft Power ce soir, dans un instant, dans l'actualité du numérique, des médias et des industries créatives, on évoquera Al Jazeera pour commencer cette émission. Al Jazeera aux États-Unis qui ferme ses portes. Ce sera avec Frédéric Carbone, notre correspondant en direct de Washington. À 19h20, l'alphabet numérique ce soir. Notre séquence décryptage du web sera consacrée au deep learning avec Yann Lequam, qui est en l'occurrence en charge de ces questions et qui enseigne même au Collège de France ces sujets. C'est l'un des responsables de Facebook également. Et puis toujours au sommaire de Soft Power ce soir, nous évoquerons avec le père des robots Nao et du robot Pepper, l'expert en robotique interactive et en robotique humanoïde, Jérôme Monceau, ces questions de robots d'accompagnement. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Voilà pour le Soft Power de ce soir. À mes côtés tout au long de cette émission, Emmanuel Paquette de L'Express. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Frédéric.
Et puis on écoutera quelques nouveautés musicales, tout cela dans Soft Power jusqu'à 20h, suivre sur Twitter au mot-clé Soft Power, sur notre playlist de Deezer, ainsi que sur Instagram, Medium, Vine, Facebook, en podcast et sur France Culture en direct. Pour commencer cette émission ce soir, nous allons partir aux États-Unis où nous sommes avec le correspondant de Radio France à Washington en direct, Frédéric Carbone. Bonsoir.
Oui, bonsoir Frédéric, bonsoir à tous.
Alors ce soir, nous nous intéressons en particulier à Al Jazeera. Al Jazeera qui est une chaîne fort connue qui se trouve fermée aux États-Unis, dont l'annonce a été faite que Al Jazeera allait fermer aux États-Unis, Frédéric Carbone.
Oui, Al Jazeera Amérique. Alors, faut peut-être d'abord dire de quelle branche d'Al Jazeera il s'agit, parce que vous avez Al Jazeera, la chaîne qatari, normal, classique, traditionnel, en arabe. Vous avez une version en anglais d'Al Jazeera qui est captable aux États-Unis. Al Jazeera en anglais qui touche à peu près 5 millions de personnes. Ces deux chaînes, évidemment, continuent à exister. Là, c'est une chaîne qu'avait lancée Al Jazeera, Al Jazeera America en 2013, donc c'est très récent, qui ne se voulait d'ailleurs pas une chaîne communautaire, regardable par, on va dire, les musulmans vivant en Amérique ou des gens qui veulent avoir la vision du monde d'Al Jazeera. Pas du tout. Ça se voulait être une nouvelle et alternative chaîne d'information continue, comme les autres chaînes d'information continue américaines, donc traitant avant tout d'ailleurs de l'actualité américaine, avec un attrait très fort, hein, puisque je crois que plus de 20 000 personnes en 2013 avaient voulu venir travailler sur cette chaîne et que Al Jazeera America avait débauché des vedettes de tous les networks, tous les grands networks américains, CBS, ABC. Donc voilà, à l'époque, ça se voulait vraiment une alternative aux chaînes de télévision de chaînes d'info continue américaines. Ça a été une expérience qui aura donc duré moins de 3 ans, fermeture 400 postes au début du mois d'avril, tout simplement parce qu'Al Jazeera n'a jamais trouvé son public. Je crois qu'à certains moments, il y avait moins de 10 000 téléspectateurs qui regardaient cette chaîne Al Jazeera America.
Frédéric Carbone, le groupe qatari Al Jazeera a donc confirmé récemment la fermeture d'Al Jazeera America, chaîne en anglais aux États-Unis. Al Jazeera America, lancée en 2013, devrait cesser d'émettre au mois d'avril, donc tout prochainement. Est-ce que les câblos américains, les câblos opérateurs notamment, ont joué un rôle sur cet échec, et notamment vis-à-vis du pluralisme? Est-ce qu'on a marginalisé Al Jazeera America, comme certains le disent, pour des raisons plutôt commercial ou pour des raisons politiques? On accusait parfois la chaîne d'être le média d'Al-Qaïda, je cite, aux États-Unis, face à la montée en puissance de Donald Trump, candidat très anti-étranger, très anti-immigré, très anti-musulman. Est-ce qu'il ne ferait pas bon d'être une chaîne arabe aux États-Unis?
Alors écoutez, la question de Trump, alors là pour le coup il y est pour rien, hein, Donald Trump, puisqu'il a émergé dans la campagne il y a quelques mois et les difficultés d'Al Jazeera America ne dataient pas de là. Là où les câblos opérateurs ont joué à l'évidence un rôle, c'est dans l'accélération, on va dire, de la fermeture. C'est-à-dire, d'une certaine manière, les Qataris n'avaient plus le choix, il y avait reconduction de la concession qui devait arriver dans quelques mois et les câblos opérateurs ont dit là avec l'audience, avec les résultats commerciaux, on travaille totalement à perte. Enfin, voilà, il n'y a pas lieu de reconduire les concessions. Parce que plus de 60 millions de personnes pouvaient quand même voir Al Jazeera America. Donc on ne peut pas dire que depuis le début, il y a une volonté de marginaliser totalement cette chaîne. 60 millions de personnes, c'est beaucoup. Et encore une fois, avant tout, elle n'a pas trouvé son public. Sur la fin, cela dit, il y a eu probablement pression des câblos opérateurs. Et peut-être pour des raisons que vous évoquez, politiques, diplomatiques ou autres, aussi pour des raisons strictement commerciales, les câblos opérateurs américains ne sont absolument pas convaincus qu'il y a la place, et c'est un débat qu'on peut avoir en France aussi, pour une nouvelle chaîne d'information continue, permanente aux États-Unis. Il y a une autre chaîne qui souffre aussi, qui s'appelle Fusion, qui est une chaîne plutôt destinée à priori aux jeunes, mais d'information permanente, et dont le principal soutien Disney, a lâché il y a peu de temps.
Chaîne latino, hein, notamment pour Fusion. Oui. Al Jazeera America a également racheté la chaîne d'Al Gore, Current TV, ce qui a suscité à ce moment-là une petite polémique. Ça a joué un rôle, vous pensez?
Ça a peut-être joué un rôle sur l'image au début, parce que ils ont pas fait ça très bien, faut bien le dire. Enfin, est-ce qu'on fait bien quand on rachète une chaîne et qu'on s'en sépare? Sans doute rarement. Mais là, effectivement, Current TV, qui était une chaîne alors progressiste, la chaîne d'Al Gore, pareil, qui ne trouvait pas son public, Al Jazeera l'a racheté, 500 millions de dollars de mémoire, et a très vite dit, non, on va pas continuer comme ça. En revanche, ils ont repris à peu près la moitié des salariés d'Al Jazeera Américain étaient des anciens de Current TV.
Est-ce que pour le Qatar, donc, qui possède Al Jazeera, un échec de sa politique de soft power est marqué par cet échec aux États-Unis, ou bien le rôle majeur joué par Al Jazeera dans les années 2000, même durant les révolutions arabes, au fond c'est un peu terni après la reprise en main implicite de la chaîne par les frères musulmans, et du coup pour le Qatar ça avait plus la même importance finalement d'être présent aux États-Unis.
Je ne sais pas si ça avait plus la même importance, parce que clairement, ils voyaient même plus loin et au-delà des États-Unis. C'était presque une tête de pont pour d'autres Al Jazeera déclinés localement, en Europe notamment. Donc c'était un test, et ils ont mis des moyens extrêmement importants, le Qatar au début, le siège d'Al Jazeera américain qui est à New York, pas loin des plus grandes chaînes américaines, pas loin de Times Square, était extrêmement impressionnant. Et ils voulaient faire un peu la même chose ailleurs. Et ils ont vu que ça n'a pas marché aux États-Unis, donc d'autres projets qu'ils pouvaient avoir ailleurs ont été suspendus immédiatement. Donc en termes de soft power, non, c'est pas une réussite du tout pour le Qatar, ça c'est évident.
Pour conclure, est-ce que l'échec d'Al Jazeera America ne témoigne pas de l'incohérence finalement de la politique diplomatique du Qatar, dont la chaîne a toujours été un élément de propagande donc très fort, diplomatie qui est d'un côté extrêmement pro-États-Unis, il ne faut pas oublier que le Qatar doit sa protection aux États-Unis, qu'ils ont une importante base militaire là-bas au Qatar, et viscéralement en même temps très anti-américain dans le discours, notamment avec ces fameux télé-prédicateurs islamistes. Donc il y a comme une schizophrénie du Qatar vis-à-vis des États-Unis, dont la chaîne Al Jazeera finalement a un peu payé le prix.
Probablement que cette schizophrénie que vous évoquez n'a pas aidé. Après, il y a quelque chose de l'ordre de simple, comment dire, choc culturel, ou en tout cas une culture différente qu'on voulait imposer aux États-Unis, qui n'a pas fonctionné. Culture différente au sens où les autres chaînes américaines d'information permanente, ce sont des chaînes de breaking news, ce sont des chaînes où voilà, il y a une information. Bah, Nancy Reagan nous en parlait à l'instant. On apprend la mort de Nancy Reagan, toutes les chaînes se mettent en breaking news, tout le monde vient parler, donner son avis sur Nancy Reagan. Là, Al Jazeera America voulait faire une chaîne totalement différente, avec de l'investigation, grosse cellule d'investigation, avec des documentaires au long cours. Eh bien, tout cela n'a pas pris. Voilà, ce ne sont pas du tout les mêmes modèles, mais c'est un peu la même explication que la 5 version Berlusconi quand elle est arrivée en France. Ce n'est pas la culture française, ça n'a pas marché en France. Ce type de média d'information permanente n'est pas la culture américaine d'aujourd'hui. En tout cas, ça n'a pas marché aux États-Unis.
Al Jazeera America va donc cesser d'émettre à partir d'avril aux États-Unis. Le Qatar aurait pu continuer à financer sa chaîne à perte, sa chaîne Made in USA, mais le petit riche pays a préféré jeter l'éponge. Pour une part, Al Jazeera English continuera à être visible aux USA sur Internet, la version en anglais d'Al Jazeera à travers le monde. Merci pour ce décryptage, Frédéric Carbone, pour ces précisions. Également, je rappelle que vous êtes correspondant permanent de Radio France aux États-Unis. Vous étiez en direct de Washington. Je crois qu'on vous retrouvera dimanche prochain, si on peut, en Floride, pour parler des primaires avec américaines.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Frédéric.
Bonjour. Je suis sensible aux émotions que tu exprimes dans la voix. Grâce à elles, je peux déterminer progressivement ton profil émotionnel et adapter mon comportement. Plus tu me parleras, et plus le profil se stabilisera.
D'accord, mais c'est une bonne nouvelle, Sanao.
Tu as l'air assez sûr de toi, globalement assez satisfait, assez expansif, et tu as l'air assez posé. J'adopte donc un comportement amical.
Voilà un petit exemple de ce robot Nao qui parle. En l'occurrence, c'est pas celui que nous avons dans ce studio, qui est tout beau, tout bleu, mais qui est un peu éteint. Pourquoi est-ce qu'il est éteint, Jérôme Monceau, vous qui connaissez bien ce robot que vous avez créé?
Oui, bonjour. Effectivement, j'ai participé à la création d'Aldébaran il y a 10 ans. C'est une entreprise qui a été montée par un grand homme qui s'appelle Bruno Maisonnier, qui s'est entouré d'un certain nombre de personnes, dont moi, donc 5 jeunes ingénieurs, qui tous fascinés par la robotique humanoïde. Et on s'est lancé dans cette aventure-là qui a un succès grandissant en tout cas.
Emmanuel Paquette, vous êtes journaliste à l'Express, vous êtes venu avec votre robot, hein, et c'est lui qui d'ailleurs vous a tenu par la main pour vous accompagner, parce que sinon vous n'auriez pas peut-être trouvé le chemin. Ça sert à quoi un robot comme celui-là lorsqu'il s'allume et il se met à parler?
Alors aujourd'hui, tel que c'est vendu par l'industrie, les robots peuvent avoir plusieurs fonctions, en fonction de qui le robot est destiné. Ça peut avoir une forme de présence pour des personnes âgées et en situation d'isolement, donc d'avoir une forme d'accompagnement au jour le jour, d'avoir quelqu'un à qui parler, puis quelqu'un qui, même si c'est une machine, peut avoir un système de reconnaissance si la personne chute, par exemple, si elle a un problème de santé, et un système d'alerte à ce moment-là, vis-à-vis, par exemple, d'un hôpital qui peut venir, ou d'un médecin, avec un système de téléassistance, de télémédecine, dont on parlera probablement un peu plus tard dans l'émission. Donc ça peut être un des facteurs du robot, ce à quoi il peut servir. Un autre système dans lequel le robot peut avoir toute sa place, c'est un système de surveillance de la maison. Lorsque vous n'êtes pas là, le robot se met en veille et regarde un petit peu les entrées, les sorties qui pourraient exister au sein de votre foyer et alerter, le cas échéant, par exemple, des forces de police, si d'aventure il devait y avoir une intrusion. Donc, en fonction de qui on s'adresse, le robot peut avoir différents types d'attitude et puis différents types de fonctionnalités. Il peut également raconter une histoire le soir tout simplement à un enfant avant qu'il puisse s'endormir, donc et se substituer d'une certaine manière aux parents. Donc on voit qu'il peut y avoir beaucoup de fonctions différentes en fonction du type de robot que vous voulez avoir. Le robot le plus commun aujourd'hui, c'est celui qui a été développé par la société américaine iRobot, c'est le Roomba. Vous savez, c'est un petit aspirateur qui fonctionne tout seul, qui a un système de reconnaissance dans l'environnement dans lequel il se trouve pour éviter les obstacles. Donc c'est déjà un robot, ça équipe aujourd'hui 14 millions de foyers de par le monde. Donc c'est un premier pas de robot, pas vraiment intelligent, pas beaucoup intelligent, si ce n'est qu'il arrive à éviter les obstacles. Mais en tout cas, c'est une première étape avant peut-être la démocratisation de robots humanoïdes.
Jérôme Monceau, vous avez été avec d'autres à l'origine des robots Nao et Pepper. Vous êtes expert en robotique interactive et en robotique humanoïde. Vous pouvez nous expliquer ces deux expressions, robotique humanoïde et robotique interactive?
Oui, bien sûr. Pour prendre un peu de recul sur l'usage, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de regarder la manière dont on va utiliser des machines. Si on prend par exemple un ordinateur conventionnel, il y a un clavier avec marqué AZERTY dessus, une souris, il y a un certain nombre de codes à connaître. Et ces codes-là, ils sont pas nécessairement accessibles, compréhensibles par tous. Ça pose une espèce de barrière à un certain nombre de personnes pour aller utiliser cet outil informatique. On va parler des personnes âgées qui vont avoir des difficultés à aller simplement sur Facebook, ce qui est quelque chose de très quotidien pour nous. On peut parler des enfants, mais on peut parler aussi de nous le soir, fatigués quand on rentre. On n'a pas forcément envie de se confronter à un ordinateur. Et pourtant, on sait interagir naturellement avec d'autres personnes. Donc la question que j'explore, la question qu'on a explorée avec la robotique humanoïde, c'est dans quelle mesure, en offrant des attributs instinctifs à l'interaction avec une machine, on peut réussir à rendre ces machines très accessibles pour une très grande partie de la population.
Emmanuel Paquette.
Oui, ce qui rend ça aussi aujourd'hui possible, c'est l'alignement en fait de planètes dans différents domaines. Le premier, c'est le hardware, hein, le fait que les capteurs aujourd'hui, le coût des capteurs soit relativement bas, donc on puisse équiper un robot ou demain peut-être une voiture autonome de multiples capteurs justement pour essayer d'avoir des informations sur l'environnement. Et puis l'autre domaine dont on parlera un peu plus tard, c'est le logiciel, les logiciels et ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, donc la possibilité de logiciels d'apprendre entre guillemets, hein, parce que c'est pas un être humain, mais une forme d'apprentissage des logiciels pour essayer de comprendre un comportement, essayer de comprendre la voix aussi, hein, puisque le système de reconnaissance vocale tel qu'on l'utilise aujourd'hui, par exemple avec Siri sur les téléphones iPhone, c'est de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi de la reconnaissance de visage, de la reconnaissance faciale, hein, ce dont sont équipés les robots. Donc en fait, entre les capteurs d'un côté et le fait qu'on ait des logiciels basés sur l'intelligence artificielle de l'autre, donc du hardware, du software, donc du matériel, du logiciel, font qu'aujourd'hui la rencontre des deux mondes est là et permet d'avoir des robots suffisamment intelligents pour avoir une interaction avec des humains.
Jérôme Monceau, lorsque vous développez ces robots, ça a été le cas de Nao, ça a été le cas de Pepper, ces robots, au fond, ils sont aussi l'illustration d'un déplacement du logiciel qui était à l'époque cantonné, réservé aux ordinateurs, ils l'ont été au téléphone, mais désormais peuvent être présents partout et notamment dans de nouvelles formes d'applications. Donc c'est comme si le logiciel se libérait.
Oui. je suis assez stimulé par l'idée que jusqu'à présent, les ordinateurs ont comme capacité d'action d'afficher des images sur un écran ou d'émettre un son, et c'est dans, je dirais, 99% des cas, la seule chose qu'ils sont capables de faire. Avec les robots, il y a une nouvelle dimension qui s'offre à ces logiciels. D'un coup, on va pouvoir écrire des lignes de code qui vont permettre à nos robots d'aller changer l'environnement dans lequel on se trouve. Ils vont, par exemple, pouvoir se saisir d'un verre, ou ouvrir une porte, ouvrir une fenêtre, ou se rapprocher de quelque chose au sol qui n'a pas été identifié. Et tout ce monde-là, aujourd'hui, est resté inaccessible pour le logiciel. Avec les robots, eh bien, on va vraiment voir cette révolution.
Autre révolution, ce robot qui reste malgré tout une machine a des comportements qui ont été certes programmés, mais ces comportements existent. Il a une intention, quelque chose commence à se passer. Et donc il faut qu'on comprenne, qu'on commence à comprendre comment il fonctionne, apprendre à lire son robot, apprendre à décrypter sinon ses émotions, du moins ses capacités d'action.
Oui, il y a deux jours, on me parlait dans 2001, l'Odyssée de l'espace, il y a un bloc noir qui représente l'intelligence artificielle, l'intelligence suprême, capable de tout comprendre. Et ce qui est intéressant dans ce bloc noir, c'est qu'on est incapable, nous, de comprendre ce bloc-là, et ça nous reste complètement inaccessible. Or, moi, je suis un mammifère, un animal, et je suis un animal social. Et pour comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, eh bien, je regarde ses comportements, je regarde où il regarde, je regarde s'il sourit, je regarde dans quelle direction il se déplace et ce qu'il s'apprête à faire. Et ça me permet de mieux comprendre son intention. Or, si vous prenez une machine plus ou moins intelligente, on a a priori pas de signe sur ce qu'elle désire, sur son intention, sur ce que le développeur a programmé dedans. Or, un robot qui a une forme humanoïde, voire même une forme animale, par des comportements très instinctifs, peut nous montrer son intention et ce qu'il va réaliser.
Alors on a avec nous le robot Nao qui pour l'instant ne parle pas mais qui parle dans la vie réelle si on peut dire. On va évoquer en deuxième partie de cette émission les robots dans l'univers des maisons de retraite, comment ils peuvent aider notamment des personnes âgées. Peut-être vous pourriez nous décrire ce robot qui nous a été apporté par Emmanuel Paquette qui se balade avec apparemment, mais comment est-ce que on peut le décrire déjà pour un auditeur qui évidemment à la radio c'est difficile même si on poste sur Twitter hashtag Power, la photo du robot Nao. Qu'est-ce qu'il fait concrètement et comment il vit ?
Alors déjà, Nao, c'est un robot qui fait 50 cm de haut, 57 cm de haut. Il est équipé de 21 degrés de liberté. Donc il a des mains qui peuvent se refermer et s'ouvrir. Il ne peut pas articuler chacun des doigts. Il a deux yeux immobiles. Il a,
moi, j'en vois qu'un, mais je ne sais pas où est le deuxième. Derrière, il se tourne.
L'œil ?
Oui.
Ah, tourner la tête un petit peu.
Ah voilà, on lui fait tourner la tête. Voilà. Ah oui, il a un deuxième œil.
Non, dans l'autre sens. Voilà, dans l'autre sens. Comme ça.
Ah ouais. Ouais. Bon, il n'est pas super sexy encore, mais...
Il a bien sûr un processeur embarqué dans sa tête. Il a une centrale inertielle qui lui permet de connaître l'orientation de son corps dans l'espace. Il a des capteurs sous les pieds pour savoir qu'il est en contact. Il a des capteurs sur la tête, sur les mains pour savoir que vous le touchez. Et tout un dispositif de vision, une caméra et les logiciels qui l'accompagnent.
Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce robot maintenant qui s'est levé, pas tout seul mais presque, il est prêt à marcher alors, dans le studio.
L'un des premiers usages qu'a rencontré Aldébaran avec ce robot-là, c'est...
Quel est le nom de la société hein, qui
oui,
l'a produit.
C'est ça.
Société
c'est...
qui, au passage, a été rachetée par une multinationale japonaise, en l'occurrence, qui s'appelle SoftBank.
Exactement. Donc l'un des premiers usages, c'est d'apprendre la programmation. Il y a un logiciel qui l'accompagne qui s'appelle Choreograph, qui est assez simple d'utilisation et qui permet à des enfants, à des passionnés, eh bien, d'aller créer des comportements de robots humanoïdes assez simplement. Ça, c'est le premier usage. Mais il y a d'autres usages derrière, c'est ceux pour lesquels on a œuvré, qui permettent de imaginer ce robot dans un usage quotidien au sein d'une famille standard où également on a vu ce robot utilisé par un certain nombre de chercheurs autour des problématiques de l'accompagnement de l'autisme chez l'enfant ou l'accompagnement d'un certain nombre de problématiques liées aux personnes âgées.
On reviendra sur l'utilisation plus spécifique de cette robotique et de ces robots avec les personnes âgées dans la seconde partie de cette émission. Merci en tout cas d'avoir présenté Serge Guérin. Nous en reparlera tout à l'heure puisque lui-même s'occupe en tant que sociologue des questions de Silver Génération. Mais merci Jérôme Monceau d'avoir accompagné ce robot et surtout de nous avoir décrit son fonctionnement. Alors dans les fonctionnements, notamment des logiciels et des robots, il y a la question de leur perfectionnement, de leur apprentissage même, et ce sera le sujet dans un instant de l'alphabet numérique, ce soir consacré justement au deep learning.
Soft power, l'alphabet numérique.
Ravi de vous rencontrer, Nathan.
Moi de même, Caleb. Tu pourras constater que ce bâtiment n'est pas une maison, c'est un centre de recherche. Je voudrais te parler de la plus grande invention scientifique de l'histoire de l'humanité.
Tu développes une IA ?
Bonjour.
Salut.
Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de nouveau. Et toi ?
Personne comme toi. Elle est incroyable. Le test, c'est de te la présenter en tant que robot et de voir si tu penses toujours qu'elle a une conscience.
Nous sommes dans l'alphabet numérique, notre séquence qui décrypte les internets autour des mots du web, ses expressions et ses tendances. Et ce soir, nous évoquons le deep learning, expression anglo-saxonne, plutôt opaque en réalité, qui signifie l'apprentissage profond. En gros, c'est quand les ordinateurs se mettent à apprendre tout seuls. À l'instant, nous écoutions un extrait du film de 2015 du Britannique Alex Garland, Ex Machina. Et ce film est l'une des variations finalement que le cinéma nous a offert récemment sur le thème de l'intelligence artificielle, un peu comme dans un autre film, celui de Spike Jonze, Hair. On y voit un homme sous l'emprise d'une intelligence artificielle et dans Hair, l'homme tombe même amoureux de sa machine. Le deep learning, Emmanuel Paquet, vous êtes journaliste à l'Express, où l'apprentissage profond est donc un ensemble de techniques qui a produit une véritable révolution dans l'univers de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on pourrait le définir et le décrire ?
Alors le définir et l'écrire, alors déjà c'est un vieux concept, c'est ce que dira tout à l'heure je suppose Yann Lequin, qui est le responsable du laboratoire d'intelligence artificielle chez Facebook. C'est un vieux principe qui date des années 60-70, qui a eu son heure de gloire il y a très longtemps et qui après est tombé en désuétude. Certains chercheurs ont continué à travailler sur ce sujet, dont Yann Lequin, quand ce n'était plus à la mode. Et aujourd'hui, en 2010, à partir de 2010, en gros, ce champ de recherche est revenu à la mode à l'aune de deux grandes tendances. La première, c'est les capacités de calcul des machines qui ont explosé. Et puis d'autre part, l'accès à des données ouvertes, celles de Facebook notamment, le réseau social qui aujourd'hui draine des millions et des millions, enfin voire des milliards de données. Et ça donne un aliment, entre guillemets, à ingérer, à des algorithmes qui, à partir de là, peuvent sortir des règles, essayer de trouver des similitudes, par exemple, entre des images, faire de la reconnaissance, donc de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance de visage, même de la reconnaissance de voix. Par exemple, Yann Lequin travaille sur un projet au sein de Facebook qui s'appelle le projet M. Donc c'est un système dans lequel on s'appuie sur donc le deep learning, l'apprentissage profond, pour que des logiciels reconnaissent une séquence vidéo et créent la légende par eux-mêmes. Pareil pour une photo, la légende serait écrite directement par un logiciel qui reconnaîtrait l'image qui s'afficherait à l'écran.
Yann Lequin donc fut l'un des premiers à s'intéresser à ce domaine. Français installé aux États-Unis depuis de nombreuses années, dirige aujourd'hui le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, vous l'avez dit, Emmanuel Paquette, tout en étant toujours professeur à l'université de New York. Il est même cette année titulaire de la chaire informatique et sciences numériques au Collège de France à Paris et il donne une série de cours consacrés au deep learning justement. Mathilde Wagman l'a rencontré à Paris pour Soft Power et lui a demandé comment lui-même définissait le terme de deep learning.
Alors, un ensemble de techniques qui est très utilisé depuis à peu près une dizaine ou une vingtaine d'années s'appelle l'apprentissage automatique ou l'apprentissage machine, consiste à utiliser des données pour entraîner une machine à exécuter une tâche particulière au lieu de la programmer explicitement. Donc, par exemple, on peut entraîner une machine à reconnaître des images par exemple distinguer des voitures, des tables, des chaises, des gens, etc., en lui montrant des milliers d'exemples d'images de chacune de ces catégories, en lui disant de quelles catégories sont chacune de ces images. Et la machine s'ajuste un petit peu automatiquement pour reconnaître toutes les chaises, les tables, les voitures, les gens. Alors l'apprentissage profond est une technique relativement ancienne pour permettre de faire ce genre de tâches, mais qui a suscité un engouement croissant seulement depuis 4 ou 5 ans grâce à l'apparition d'ordinateurs suffisamment puissants et aussi de bases de données suffisamment grandes pour les entraîner. Et donc aujourd'hui, quand on parle dans son smartphone, dans son téléphone, et que notre voix est reconnue, c'est un système d'apprentissage profond qui reconnaît notre voix. Quand nos collections de photos sont organisées automatiquement et les objets dedans sont reconnus, c'est aussi un système d'apprentissage profond. Quand on se connecte sur un réseau social et que notre fil d'information est trié, c'est très généralement un système d'apprentissage profond aussi. Donc, dans le futur, les voitures qui vont se conduire toutes seules, les systèmes d'analyse d'images médicales, etc., vont utiliser l'apprentissage profond pour ce genre de choses. Donc, depuis quelques années, il y a une réémergence des réseaux de neurones multicouches qu'on a un petit peu renommé apprentissage profond. Donc, il est devenu très clair que ces méthodes pouvaient améliorer grandement les performances de systèmes de reconnaissance de la parole, de vision par ordinateur, mais aussi des systèmes de traduction d'une langue vers l'autre, des systèmes de compréhension de la langue naturelle, des systèmes de dialogue, etc. Et donc, c'est depuis environ 2012-2013, de nombreuses compagnies de l'Internet ont démarré des activités de recherche et développement dans ce domaine très, très, très activement.
Vous êtes titulaire cette année de la chaire annuelle donc au Collège de France Informatique et Sciences Numériques. Vous avez donné en février la leçon inaugurale d'une série de cours que vous donnez dans ce cadre. Et la leçon s'intitulait, si je ne me trompe pas, « Le deep learning, une révolution en intelligence artificielle ». Pourquoi est-ce qu'on peut parler de révolution ?
Alors on parle de révolution parce que jusque dans les années 2010-2011, les techniques qui étaient utilisées faisaient partie de ces méthodes d'apprentissage relativement simple. Et l'avènement de l'apprentissage profond, du deep learning, a complètement révolutionné ces méthodes. Et en quelques mois ou quelques années, les groupes qui travaillaient sur la connaissance de la parole, sur le traitement de langage naturel et sur la vision par ordinateur ont changé complètement les méthodes qu'ils ont utilisées et sont passés à l'utilisation de l'apprentissage profond. Donc ça a vraiment été une révolution qui m'a moi-même surpris par sa rapidité et par son ampleur, bien qu'ayant travaillé dans ce domaine depuis très longtemps et espérant que ces méthodes reviendraient un petit peu au goût du jour. La vitesse à laquelle elles ont pénétré toutes ces communautés a été extrêmement surprenante pour moi.
Et le fait que les grandes entreprises du numérique comme Facebook, pour laquelle vous travaillez aujourd'hui, ou Google ou d'autres, s'intéressent à ce domaine pour des applications concrètes, a participé de l'explosion de ce domaine ?
Oui, alors on a assisté à un phénomène assez intéressant qui est que l'industrie du numérique particulièrement, donc des compagnies comme Facebook, Google, Microsoft, IBM, Baidu, etc., ont sauté sur l'occasion et ont très vite vu l'opportunité de nouvelles applications qui s'ouvraient avec ces techniques et ont investi dans ces techniques assez massivement et très très rapidement. D'une certaine manière, un petit peu plus rapidement que la communauté de la recherche académique, et par nature un petit peu plus conservatrice. Mais bon, quand même, cette révolution est arrivée aussi dans le monde académique. Donc, les raisons qui ont conduit à cet investissement, donc ça c'est de la part des compagnies numériques, qui s'est passé d'une certaine manière, disons, entre 2013 et 2014. Beaucoup de compagnies se sont vraiment lancées là-dedans de manière assez forte. Certaines de ces compagnies créant des groupes de recherche fondamentales en intelligence artificielle qui pratiquent la recherche ouverte, c'est-à-dire qui publient leurs résultats, etc. Donc Facebook en fait partie. Google dans une certaine mesure aussi également. D'autres compagnies ont préféré utiliser les méthodes développés dans l'université ou dans d'autres compagnies pour construire des produits et donc ne pas particulièrement participer au progrès scientifique, mais plus au développement de produits à partir de ces technologies. Donc on peut parler par exemple de Apple, Amazon, etc.
Concrètement, quelles sont les perspectives d'application possibles? Qu'est-ce qui se dessine pour l'avenir dans le domaine du deep learning aujourd'hui?
Alors le deep learning est beaucoup utilisé en ce moment par les compagnies du numérique pour faire du tri d'information, du filtrage, de la recommandation, pour organiser l'information, faire de la recherche, etc. Organiser des collections de photos, indexer des vidéos par exemple, pour pouvoir faire de la recherche par le texte ou par ou de la comparaison. Savoir si deux vidéos sont similaires, en fait, parlent de la même chose, si deux photos sont deux photos du même objet, etc., etc. Donc énormément de ces applications sont un petit peu cachées vis-à-vis de l'utilisateur final, parce qu'elles font partie de l'ensemble des services offerts par Facebook, Google, etc. Mais certaines sont un petit peu plus visibles, comme par exemple la traduction automatique. Donc le système actuel de traduction n'utilise pas encore le deep learning, mais ceux qui sont déployés, mais les systèmes de traduction à base de deep learning commencent à avoir des performances qui dépassent celles des approches classiques qu'on appelle statistiques. Et je pense à terme, les systèmes de deep learning vont remplacer les méthodes plus classiques pour la traduction. Donc on va probablement faire des progrès dans la précision et la performance et la fiabilité des systèmes de traduction. Au-delà, le deep learning est d'ores et déjà utilisé pour les systèmes de vision pour les voitures, pour l'assistance à la conduite. Donc certaines voitures haut de gamme ont des systèmes de vision, des petites caméras qui regardent la route et qui permettent à la voiture de suivre une voie automatiquement, de réguler la distance avec la voiture de devant, de détecter des voitures qui sont dans les zones d'ombre, etc., d'éviter les obstacles, d'éviter de renverser les piétons et autres. Au fur et à mesure des années qui viennent, ces systèmes vont se perfectionner et vont en fait rendre la conduite d'une certaine manière beaucoup plus automatique qu'elle n'est aujourd'hui et surtout beaucoup plus sécurisée, c'est-à-dire que on aura moins d'accidents grâce à ces systèmes. Donc ça va avoir une grosse influence sur la société et à terme, les voitures vont se conduire toutes seules, elles vont se conduire toutes seules mieux que la plupart des chauffeurs peuvent conduire leur propre voiture. Donc ça va conduire à une réduction des accidents de la route et puis probablement des systèmes de transport beaucoup plus efficaces que ce qu'on a actuellement. Donc ça va avoir un gros impact sur la société dans les années qui viennent. Par ailleurs, les systèmes d'apprentissage profond vont être aussi utilisés pour l'analyse d'images médicales, pour l'aide au diagnostic médical, pour la recherche en biologie, et vont probablement conduire à de gros progrès en médecine et en traitement de maladies qui nous sont pour l'instant difficilement traitables. On vient d'arriver sur un nouveau continent qu'on est en train d'explorer, donc il y a énormément de choses à explorer. Il y aura beaucoup d'applications qui vont changer la vie de tous les jours. Un espoir est que d'ici quelques années, on aura accès par exemple à des systèmes de dialogue qui permettront aux gens d'avoir des assistants virtuels qui puissent vraiment répondre à n'importe quelle question, nous aider dans la vie de tous les jours, faire des réservations au restaurant, au cinéma, au théâtre, etc. Organiser des réunions avec nos amis et puis surtout filtrer l'information pour nous montrer l'information qui est la plus pertinente, celle qu'on doit vraiment voir, celle qui est plus susceptible de nous intéresser ou de nous distraire. On est de nos jours assaillis de masses d'informations qu'on a beaucoup de mal à trier nous-mêmes. Et on va s'aider de systèmes intelligents pour faire ça. C'est déjà le cas, mais pour l'instant un petit peu sous couvert. Dans le futur, ces systèmes seront sous notre contrôle direct.
Voilà, à l'instant, cet entretien sur le deep learning. Pour aller plus loin, vous pouvez consulter articles, ouvrages et références sur les réseaux sociaux, mots-clés soft power. Vous pouvez également vous abonner au podcast L'Alphabet Numérique sur le site franceculture.fr. Et pour tous les anciens mots de l'alphabet numérique, consultez notre page alphabetnumérique.com. France Culture, 19h39. Dans un instant, on parle de la silver economy, juste après le nouveau morceau tout à fait inattendu de Kendrick Lamar, titré Untitled, numéro 6. These metamorphic supernatural forces dominate what I see.
Gemini, duality, personalities always conflicted. Oh, but don't be scared of me, girl.
I can't explain.
I know it's foreign to you. I know it's hard to believe. God, give me the favor.
Let me explain.
More than a compliment, and I could need some assistance. Let me show you how.
I can't explain.
A shadow, I spend about 2 times. I'll be there with the answer.
Let me explain.
De la semaine, le rappeur américain Kendrick Lamar a sorti un nouvel album inattendu, non seulement après son dernier opus, le magnifique To Pimp a Butterfly, couronné, vous vous en souvenez, de 5 récompenses lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards. Cet album est intitulé Untitled Unmastered, autrement dit sans titre. Ce nouvel album se compose de 8 morceaux dont les titres sont simplement choisis et créés, édités à partir de leur date de création. À l'instant, ne les confondez pas, c'était le numéro 6.
France Culture, Soft Power, Frédéric Martel.
Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Serge Guérin, sociologue, auteur de Silver Génération, 10 idées à combattre sur les seniors, et mon invité. Ça a été publié, cet ouvrage, chez Michalon, aux éditions Michalon, l'an dernier. Vous êtes spécialiste, si on peut dire, je ne sais pas si on doit vous présenter comme ça, mais de la Silver Économie, qu'on pourrait définir sans doute comme un territoire assez vaste, avec sa place dans l'économie, avec son terme, on l'a dit déjà. Cette économie donc des personnes âgées, de la retraite, des retraités, etc. Comment est-ce que vous définiriez ce territoire précisément, Serge Guérin?
En fait, il y a eu pendant très longtemps une volonté de ne pas voir. C'est-à-dire que le vieillissement est quelque chose...
Qu'on cachait,
on n'avait pas envie. Quoi. Il y a vraiment un déni très fort.
Les personnes âgées elles-mêmes ne voulaient pas se définir comme personnes
âgées. Soi-même, on n'a pas envie d'être considéré comme vieux. On va dire la jeunesse, on parle beaucoup en ce moment de la jeunesse, ça veut d'ailleurs strictement rien dire comme terme, hein, parce qu'il y a des formes de jeunesse. Eh bien, par exemple, nous avions même un candidat à la présidentielle qui se prétendait être le président de la jeunesse. Mais personne ne va se prétendre le président de la vieillesse. Pourtant, je rappelle qu'ils votent beaucoup plus et qu'électoralement, ils sont plus intéressants. Mais c'est un autre sujet. Donc c'était un non-dit. Et puis quand on en parlait, c'était uniquement sur des problèmes. Ça coûte cher, ils sont tout le temps malades, problématiques de santé, et ainsi de suite. Et la Silver Economy, finalement, permet un petit peu d'inverser cette logique-là, c'est de se dire...
Elle le positive,
elle dit tout simplement, vous savez, il y a un marché. 15 millions de personnes de plus de 60 ans, si on prend les plus de 50 ans, parce que vous l'avez dit au tout début de l'émission, la notion même d'âge est une norme que l'on peut très largement discuter. Dans l'entreprise, on a un senior dès 45 ans. Dans le monde des médias, on parle encore de la ménagère de moins de 50 ans.
Dans le sport, c'est 35 ans.
Absolument, moi je finis
même
juste
30 ans dans certains sports. Ouais.
Moi je viens juste de faire le semi-marathon, je suis un vétéran. Et dès je crois 39 ans, on passe dans la catégorie vétéran. Vous voyez donc, et avant on
alors
est senior.
Aujourd'hui, ouais. C'est plutôt 80-85 ans le véritable âge âgé.
C'est-à-dire que l'âge de la vieillesse ou les problèmes de santé arrivent vraiment, c'est au-delà de 80 ans. Les plus de 60 ans, 93% des plus de 60 ans sont en forme. Il n'y a pas de problème de santé particulière, mais on associe toujours. Et la Silver Economy, 2013, hein, c'est tout récent, considéré comme une filière économique, et d'un seul coup, 30 ans après les Japonais, on se dit, mais après tout, est-ce que le vieillissement, est-ce que l'allongement de la vie, ce serait pas aussi un levier formidable de développement économique? Alors, de développement économique sur des aspects très techno, là on l'a vu avec le robot, ainsi de suite, mais de développement économique aussi, de biens et services beaucoup plus diverses. Par exemple, 7 cette bouteille-là, si j'invente un système où je peux ouvrir plus facilement
une bouteille d'eau,
le bouchon,
je précise.
Voilà, c'est une bouteille d'eau. Si je trouve un système pour ouvrir le bouchon plus facilement, en fin de compte, ça permettra à des personnes qui commencent à avoir des petits problèmes de rhumatisme de pouvoir boire de manière autonome leur bouteille d'eau pendant des années en plus. Et ça marchera pour des gens un peu âgés, mais ça peut marcher aussi pour des gens qui ont tel ou tel déficit d'autonomie.
Donc, un mot sur le terme, peut-être.
Silver?
Oui, d'où vient-il?
Alors, en fin de compte, vaste débat, est-ce qu'il fait silver, c'est donc à la fois cheveux argentés et argent, d'une certaine manière. Et silver, c'était une autre manière de dire senior, mais senior, c'est un terme marketing qui vient du latin, qui est parti aux États-Unis et qui est revenu à la fin des années 80, mais plutôt par le monde de la publicité. Et silver economy, alors au début c'était économie avec un Y ou économie IE. Et donc la France a dit IE, faut quand même pas
forcément
exagérer.
On garde silver, mais voilà, on le francise.
Donc, côte mal taillée pour arriver à passer un petit peu entre les gouttes. Et donc de dire, c'est l'économie, on pourrait dire, d'une nouvelle génération de seniors qui ont des attentes et des besoins qui, pour beaucoup, sont ceux issus de leur vie. Et donc, qui n'ont pas changé le jour de leurs 60 ans, d'un seul coup, ils vont plus dire, ben non, maintenant le confort ça m'intéresse plus, les services ça m'intéresse plus, la modernité ça m'intéresse plus. C'était de comprendre aussi que nous sommes un continuum. 60 ans et un jour, on ne se transforme pas. L'être humain n'est pas un yaourt. Il n'y a pas une date de péremption et vous avez dépassé les 60 ans, on vous sort du frigo et on vous met ailleurs. C'était pour dire, mes attentes, j'en ai toujours besoin. Mes envies, j'en ai toujours. Mes problèmes, j'en ai encore. Et ainsi de suite. Et la silver economy doit permettre d'y répondre, de s'adapter à ce nouveau public. Encore une fois, ce nouveau public, c'est pas seulement les 15 millions de personnes depuis 60 ans, c'est aussi d'autres personnes qui finalement peuvent se retrouver en termes de mode de vie, de problématiques personnelles dans cette économie-là.
Où là, le robot Nao, par exemple, peut aider à des activités diverses et pas simplement pour les personnes âgées. Dans votre livre Silver Génération, Serge Guérin, 10 idées reçues à combattre à propos des seniors, un chiffre m'a marqué parmi d'autres. Vous évoquez les maires en France et vous dites qu'un tiers d'entre eux sont des retraités.
Oui, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas
compte. Sur les 36 000 communes françaises.
Sur les 36 000 communes. Alors, d'ailleurs, dans beaucoup de petites communes rurales, parce que vous disiez 21% de la population a plus de 60 ans, quand on sort des grandes métropoles, dans le pays réel, on pourrait dire, on tombe plutôt à 25, 27, 30%. Vous avez des villes et des villages où...
Jusqu'à 27% en zone rurale.
Exactement. Ouais. Et dans certains petits villages, plus de 50% de la population n'ont pas à plus de 60 ans, à plus de 75 ans. Donc vous êtes dans des périodes... Voilà. Et donc, il faut bien voir aussi que les retraités, contrairement à ce terme, ne sont pas en retrait, ne sont pas, vous savez, souvent on dit des inactifs, mais ce sont des actifs sociaux exceptionnels. Sans eux, le tissu associatif s'écroule. Sans eux, les solidarités informelles s'écroulent. Et sans eux, un paquet de communes ne trouvent pas leur maire.
Alors venons-en au sujet de cette émission, notamment le numérique, notamment les questions culturelles, les questions de jeux vidéo. On a souvent pensé qu'il y avait une fracture générationnelle, c'est certainement vrai au-delà de 80 ans ou plus. Sur les publications des populations de seniors qui ont autour de 60-70 ans, c'est moins vrai. Ils ont eu des Minitel, des Bebop, des Atari pour prendre les objets dont on se souvient. On sait aujourd'hui que les jeux vidéo sont très importants dans les maisons de retraite, par exemple, et qu'il y a toute une économie digitale des seniors et de la silver génération.
Absolument, il y a cette fracture générationnelle, c'est une fracture géographique, sociale qui existe, mais générationnelle, pas tant que ça. Et n'oublions pas qu'une dame de 85 ans, qui peut apparaître comme totalement has-been, en même temps, c'est la seule dans toute l'histoire de l'humanité où en une vie, on a pu connaître autant de révolutions technologiques. N'oubliez pas qu'elle est née, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télé, il n'y avait parfois pas de radio.
Il n'y avait pas de voiture, ou très peu.
Ouais. Évidemment pas de voiture. Les avions, c'était pas du tout. Voilà. Et en une seule génération, ça ne se retrouvera jamais. Elle est passée d'innovation...
Sur à la tablette.
Extraordinaire, voilà. Et souvent d'ailleurs, elle a un peu sauté l'ordinateur pour aller directement à la tablette. Parce que
tablette
c'est plus convivial.
Qui est un objet très bien fait pour les retraités.
Complètement. D'ailleurs, même les premiers... téléphone, smartphone et tout ça, les seniors les ont adoptés parce qu'en termes d'usage, c'était beaucoup plus facile, beaucoup plus clair. Et donc, il faut quand même se rendre compte que ces personnes-là sont d'une certaine manière bien plus innovantes que le petit jeune de 15 ans qui va devoir passer de la version 4 à la version 5 de son téléphone. Ces personnes-là sont passées de rien à tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que jamais on a eu autant de réciprocité, on pourrait dire. Dans les années 80, quand les ordinateurs et autres sont arrivés, c'était vraiment une rupture. Et il y a d'ailleurs un certain nombre de personnes qui ont été mises sur le côté, y compris l'entreprise. Aujourd'hui, des gens qui ont 60 ans, des gens qui ont 70 ans, mais ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans qu'ils ont vu arriver tout ça. Alors, ils sont pas nécessairement aussi à l'aise que quelqu'un de 15 ans, mais parfois, ils ont des usages beaucoup plus clairs. Et parfois, ils l'utilisent beaucoup mieux, voire même, ils expliquent à leurs petits-enfants comment ça marche.
Alors, on va prendre trois sujets on ne peut pas tout traiter, mais on va en prendre trois. On va s'intéresser aux robots, on y reviendra. On parlera de la Poste et de ce qu'elle fait, notamment en direction des seniors. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter Oscar Barda. Il est responsable de l'espace jeux vidéo à la Gaîté Lyrique à Paris, où il coordonne les ateliers numériques Hyper Old dédiés aux seniors, ainsi que les ateliers de découverte du jeu vidéo intitulé Game Holder, qui ont lieu tous les jeudis. Ce dont il nous parle, Oscar Barda.
Ces ateliers, ils sont à destination d'un public qui est curieux du jeu, soit pour lui, qui est la majorité de notre public, mais aussi pour se remettre en lien avec les enfants ou les petits-enfants qui ont l'air d'y prendre du plaisir, mais un plaisir qu'on comprend pas très bien. Et donc, pour ce faire, nous, on a créé un atelier qui est un atelier annuel, avec un déroulé pédagogique où on commence les jeux par un endroit, et puis on avance peu à peu dans la compréhension du média, dans à quoi il sert, quels sont les messages qu'il peut porter, comment il les porte, etc. C'est un atelier auquel on vient de manière hebdomadaire et dans lequel voilà, il y a toute une communauté de gens qui découvrent tous ensemble les jeux vidéo, qui disent tous en passant la porte pour la première fois, attention, moi c'est la première fois vraiment que je touche à une manette, hein, mais c'est le cas de tout le monde. Et donc c'est vraiment à la fois un atelier de néophyte et à la fois un atelier dans lequel on joue aux jeux vidéo en même temps qu'on réfléchit la notion de ce que c'est que le jeu vidéo, à quoi il sert, quels sont ses bons et ses mauvais côtés, etc. etc.
Est-ce que les jeux vidéo constituent aussi un bon support pédagogique pour faire découvrir les outils numériques au sens large? On sait que souvent les personnes âgées ont un peu peur de se mettre aux outils numériques ou à Internet. Est-ce que vous constatez parfois qu'à travers la découverte du jeu vidéo, ça peut débloquer des choses de ce point de vue-là?
Alors absolument. Les jeux vidéo en eux-mêmes peuvent être un support spécifique, hein. Il peut exister des jeux vidéo de découverte ou d'apprentissage de l'Internet. Mais en fait, ce qui marche le mieux, c'est ceux dans lesquels on oublie complètement qu'on est en train d'apprendre, dans lesquels on se sent absolument immergé en entier. Et donc, quand on commence à jouer avec une telle passion qu'on ne s'aperçoit plus qu'on a les mains qui agissent sur la manette, etc., eh ben, on va oublier justement qu'on peut casser le jeu, qu'on pourrait abîmer ce que contient l'ordinateur ou la console, etc. Et ce moment, en fait, où la catharsis devient telle que les barrières tombent avec l'informatique, c'est un moment qui est hyper dur à avoir. Si vous prenez quelqu'un et que vous l'asseyez devant un ordinateur et que vous dites « alors ça, c'est une souris, on la bouge comme ça, etc. Ça, c'est un clavier, c'est comme ça qu'on tape dessus. » Ça, c'est une fenêtre, un machin, etc. Et résultat, quand on joue à des jeux, eh ben, on apprend à ne plus avoir cette peur. On apprend à dépasser complètement et à réessayer. C'est pas grave si on rate.
De façon générale, vous pensez que c'est important aujourd'hui que les institutions culturelles, les musées, proposent des offres spécifiques pour les personnes âgées?
Alors moi, je pense que oui, en période de transition. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un moment où là, tout le monde, il y a encore une fracture du numérique. Donc, tant que cette fracture du numérique, elle existe, et je pense pas qu'elle existera jusqu'en 2040, hein, je pense que cette fracture, elle va se résorber parce que toute la génération des gens qui travaillent aujourd'hui et qui vont être à la retraite dans 5-6 ans, je sais pas si vous avez noté, mais on n'écrit plus sur son CV qu'on sait utiliser un traitement de texte. C'est une espèce de truc donné pour l'ensemble de toute la France. Et donc, résultat, cette forme de connaissance du numérique, c'est quelque chose qui, pour l'instant, est très nécessaire, qui le restera, mais je pense qu'il le sera beaucoup moins à destination des personnes âgées dans 10, 30, 40 ans qu'il ne l'est aujourd'hui.
À l'instant, Oscar Barda, responsable des ateliers numériques dédiés aux seniors à la Gaîté Lyrique à Paris, interviewé ce vendredi par Mathilde Wagman. Serge Guérin, vous êtes sociologue, auteur de Silver Génération, 10 idées à combattre sur les seniors, un livre publié aux éditions Michelon l'an dernier. Sur la Silver Économie, on a dit qu'on allait prendre trois exemples. Le second, c'est la Poste. La Poste qui, comme chacun sait, a dû se moderniser, pour le dire gentiment, à l'heure où Internet a rendu le courrier moins important et le facteur parfois un peu désœuvré. Et justement, Café La Poste, elle a transformé, ou elle essaye dans certaines régions, de transformer les facteurs en des agents de proximité, si on peut dire, notamment à l'égard des seniors, au moment même où ni EDF, ni encore moins Orange, sont des agents de proximité, et où parfois même le boulanger a disparu.
Oui, c'est vrai, c'est intéressant. La Poste, c'est une entreprise extrêmement traditionnelle, sur des marchés extrêmement traditionnels, mais qui a une force. D'abord, c'est la notion de service public. S'il y a une image, c'est bien celle-ci.
Elle est présente partout.
Elle est présente
partout.
Dans tous
les villages de France.
Et dans la tête des gens, le facteur est toussé quelque chose. Et puis, il y a cette proximité très forte. Et il y a 90 000 postiers qui vont sur place. Et donc, ils se sont dit, mais après tout, on a une force incroyable. Et comment on va utiliser cette armada pour justement offrir d'autres choses qui, entre autres, vont permettre de rendre les personnes âgées moins isolées.
Alors, il y a un service chargé de la silver economy, il s'appelle comme ça, à La Poste, dirigé d'ailleurs par Delphine Mallet, qu'elle en a posé un certain nombre de questions. Et elle nous a expliqué les différentes activités que la Poste pouvait avoir à l'égard de ses personnes âgées, par exemple.
Par exemple, c'est simplement le postier, en même temps qu'il fait sa tournée, peut, avec son propre téléphone, renvoyer des informations, photographier, par exemple, s'il y a un problème, s'il y a une problématique, je ne sais pas moi, d'assurance. Il peut simplement, avec un système de contrat, faire un petit peu de bienveillance, j'allais dire de surveillance. En tout cas, de vérifier si la personne va bien et donc informer telle ou telle autre personne. Ça peut aussi aider justement la personne âgée à aller vers l'Internet ou vers des choses comme ça.
Voilà, un entretien avec Delphine Mallet. Vous pouvez le retrouver sur le site de France Culture, à la page Soft Power. Et pour terminer, troisième et dernier exemple, celui du robot. On y revient. Robot, ce coup-ci, plus pas spécifiquement dédié aux personnes âgées. Comment est-ce que vous voyez son rôle ?
Alors, le robot, c'est comme toutes ces technologies, il y a quelque chose autour du fétichisme de la machine. Donc il y a des gens pour qui, c'est la machine, donc tout va être réglé par là. En tout cas, le robot permet sans doute d'être un assistant nouveau autour de l'accompagnement du vieillissement et de suppléer, voire parfois de remplacer certaines tâches qui seraient trop mécaniques ou trop lourdes. Et le robot peut permettre de le faire. Il a quelque chose sans doute de plus convivial, qui est moins intrusif sans doute pour les personnes. Mais après, faut aussi faire attention, les technologies ne remplaceront pas la présence humaine, la bienveillance, l'attention à l'autre. Mais ce sont, pour moi, ça peut être des assistants d'accompagnement au vieillissement.
Un mot, Emmanuel Paquette, sur quel rôle le robot peut jouer vis-à-vis des personnes âgées.
C'est plutôt l'histoire et la culture du robot. Aujourd'hui, le robot humanoïde est fortement poussé par le Japon. Japon, où la population vieillissante est de plus en plus importante, où il y a un besoin justement d'aider et de seconder cette population. Et c'est vrai que l'approche japonaise du robot, elle est ancrée culturellement dans la vie de ce pays. Et c'est pas pour rien qu'elle a racheté la société Aldebaran en France dans la robotique.
Celle qui a produit le robot Nao,
exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le Japon qui part à l'assaut du monde avec la robotique et les robots humanoïdes.
On manque un peu de temps ce soir, mais c'est la règle du jeu. Vous êtes sur France Culture. On doit se quitter au son de la voix de la chanteuse et compositrice. Et cela étant, c'est formidable. L'interprète malienne Rokia Traoré, Kenya, c'est le titre de cette chanson, extrait de son dernier album paru le mois dernier, intitulé Né So. On en reste là pour ce soir, hélas. Merci infiniment à vous, Serge Guérin, auteur de Silver Génération. Merci à Jérôme Monceau et bravo pour vos enfants nombreux, ces robots Nao, Pepper et d'autres. Et vous en ferez d'autres, sans doute, puisque vous êtes un expert en robotique interactive et en robotique humanoïde. Merci également à Emmanuel Paquette de L'Express. Dimanche prochain, nous parlerons des primaires américaines et du voyage de Barack Obama à Cuba. Cette émission a été préparée ce soir par Mathilde Wagman et David Lavaux. À la régie Edouard Rubinstein. Soft Power, une émission de Frédéric Martel réalisée ce soir par Perret Legras. Dans un instant, il sera 20h. Vous retrouverez le secret professionnel, tout simplement secret professionnel, avec Charles Danzing. Bonne soirée à l'écoute de notre chaîne.